des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale, vous entendez, puisque nous sommes en direct de la fête du livre de Bron à laquelle s'associe France Culture et où nous avons la chance de passer une heure avec deux écrivains, deux femmes, deux insulaires d'exception, Milena Agus et Yannick Lins. Deux insulaires, disais-je, car aujourd'hui nous parlerons du métier d'écrire, qui est aussi métier de vivre, comme disait ce bon vieux Cesare Pavese, mais aussi de ce que c'est qu'une île pour un écrivain, et d'écrire depuis une île, qu'il s'agisse de la Sardaigne, comme Milena Agus, ou d'Haïti, comme Yannick Lins. Bonjour Milena Agus.
Bonjour.
J'en profite d'ailleurs pour saluer Hélène Joguet qui sera votre interprète aujourd'hui. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Le public français, Milena Agus, vous révère depuis Mal de Pierre, paru en 2007, qui a inspiré un beau film à Nicole Garcia. Vous êtes née en Sardaigne, à Cagliari. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres et vous revenez avec ce 7e roman, Terre promise, traduit par Marianne Faurobert et publié comme tous les livres chez Liana Lévy. Terre promise, le pluriel est important, dites-vous, est une histoire formellement courte, à peine 200 pages, mais qui se déroule sur plusieurs générations, entre Raffaele et Esther, un couple qui a cru s'aimer en Sardaigne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Raffaele, prisonnier de guerre en Allemagne, revient, mais un couple qui est au fond assez mal assorti. Ils vont quitter la Sardaigne, Raffaele d'abord, pour Gênes, bientôt rejoint par Esther. Ils vont avoir une fille, Felicita, et Felicita aura un fils, Gregorio, qu'elle élèvera seule en Sardaigne, sauf que, comme les autres personnages, Gregorio, lui aussi, a dans le cœur l'envie, la chimère d'une terre promise. Milena Agus, vous revenez tout au long du livre sur une phrase au sujet du village sarde où vit Esther. Comment peut-on vivre dans un endroit pareil? Et je voudrais savoir pour commencer dans quelle mesure l'insularité est-elle la cause de ce mal, non pas ce mal de pierre, mais ce mal de cœur qui conduit chacun des personnages à entretenir un rapport à la fois de nostalgie et de désir de fuite vis-à-vis de la terre dans laquelle ils sont nés.
Allora, io posso dire.
Ce que je puis vous dire.
Chiaramente delle cose.
C'est un certain nombre de choses.
Che sono tali secondo me, quindi non so esattamente.
Je ne sais pas exactement.
Come stiano realmente le cose.
Dans quelle mesure les choses sont aussi réelles que je l'ai présentées.
Ho notato.
Mais une chose est certaine, pour répondre à votre question.
Che il riferimento alla Sardegna.
C'est qu'en ce qui concerne la Sardaigne en tout cas.
Il y avait maggiormente tanto tempo fa negli anni 60,
naguère, dans les années 60-70, après quoi il y a eu ces fameux exodes vers le nord du pays, un exode considérable.
Sì.
Il y avait ce sentiment-là, oui, que vous évoquiez.
Les Sardes, straordinariamente stanchi,
ils étaient
della loro terra,
épuisés de leur terre. En un sens. Pour des raisons qui sont évidentes, la pauvreté. Et puis aussi, parce que les terres promises, à ce moment-là et à cette époque-là, elles passaient par l'éloignement. On n'allait plus s'occuper des animaux, on ne va plus faire l'agriculture non plus. On allait vers la modernité, c'était ça.
La
volonté, cette fameuse terre promise, qui était l'industrie à ce moment-là.
Et questo per noi sardi.
Et pour nous les Sardes, ça a été malheureusement très très dommageable, très préjudiciable. Et les gouvernants eux-mêmes, d'ailleurs les gens qui dirigeaient la région, en ont été conscients. Il y a eu préjudice parce que personne ne s'est rendu compte que la voie à suivre, ce n'était pas celle-là.
Par exemple,
Et je vous donnerai un exemple.
Della rovina che ha avuto la Sardegna col piano di rinascita.
De ce fameux plan de renaissance ou de renaissance du territoire de la Sardaigne, ça a été une catastrophe pour nous.
Sì, Noi in Sardegna c'est-à-dire qu'en Sardegne,
nous avons véritablement des paradis terrestres. Il y a des beautés naturelles que je n'ai vues personnellement nulle part
ailleurs.
Et il y a eu des paysages et des lieux qui ont été purement et simplement détruits par l'idée même de la modernité. Exemple, on a fait des plages de sable blanc avec des dunes. Tous ces lieux qui étaient splendides, c'est devenu des lieux qui ont servi ensuite à l'industrie pétrochimique. De la même manière, on a créé des villages, des implantations touristiques, on a détruit le littoral dans bien des endroits.
Vous en parlez d'ailleurs dans Terre Promise. Il y en a question, beaucoup.
On
a construit la Costa Smeralda, la fameuse Côte d'Émeraude, qui n'a rien à voir avec la Sardaigne et son histoire. On y trouve des terrains de golf, des prairies à l'anglaise. Enfin, ça n'a rien à voir avec notre histoire. Pourquoi bien? Parce qu'il y avait cette Terre Promise qui représentait à l'époque la modernité. Sans oublier aussi,
per non parlare dei paesi distrutti,
sans oublier les villages Sardi, qui ont été détruits aussi, à telle enseigne qu'il y a eu un moment en fait où les Sardes n'aimaient plus rien de leur pays. Alors les maisons traditionnelles, elles ont été détruites. On a fait à ce moment-là des constructions qui ont complètement ruiné ce patrimoine.
Et
pourquoi tout ça? Eh bien parce qu'on n'a pas compris à ce moment-là la valeur de ce qui était présent, de ce qui était là. Et ce plan de renaissance, comme on l'a appelé, j'en parle d'ailleurs dans tous mes ouvrages, c'est un plan qui a vraiment mis, je dirais, qui a misé sur l'industrie. Alors que, à mon sens, il aurait fallu peut-être miser davantage sur la réforme agraire.
Voilà. Bonjour Yannick Lahens.
Bonjour.
Alors, prix Femina pour Bain de Lune en 2014, vous êtes l'une des voix les plus importantes de la littérature caribéenne, de la terre d'Haïti, de la littérature française aussi. Vous êtes l'honneur d'ailleurs, et l'auteur de La couleur de l'aube, de La petite corruption, de l'exil, on en parlera, entre l'ancrage et la fuite. C'est un essai sur l'écrivain haïtien et la notion d'exil. Et vous publiez en ce presque printemps Douce déroute chez Sabine Vespizer, où vous replongez dans l'atmosphère survoltée, et vous nous plongez dans l'atmosphère survoltée de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, à travers un cercle de personnages qui sont liés les uns aux autres par des liens familiaux ou amicaux plus ou moins étroits. Il y a Francis, journaliste français qui fait à Haïti l'expérience d'un dépaysement radical. Cyprien, le jeune homme qui cède lui au risque d'une ascension sociale rapide, au risque de se compromettre moralement. Brune, la chanteuse dont le père, un juge, a été assassiné pour avoir été trop intègre dans une ville, dites-vous, où tout s'achète. Il y a Ézéchiel aussi, le poète. Nerline, la militante. Votre livre s'ouvre par la dernière lettre du juge Raymond Berthier à son épouse. On se dit qu'on tient là peut-être l'amorce d'une énigme, peut-être d'une enquête. Et pourtant, c'est moins cette absence du juge, cette présence de la mort qui fait sens que la présence des personnages, la présence de leurs rêves aussi, la présence de leur errance, leur douce déroute, c'est votre expression, qui suggère l'idée d'un destin perdu, d'une défaite. Et comme je le demandais à Milena Agus, est-ce que la nature insulaire d'Haïti, entre violence et douceur suraiguë, écrivez-vous, est-ce qu'elle explique aussi cette déroute douce du titre qui sonne comme un oxymore, véritablement? Mais peut-être qu'Haïti est un oxymore.
D'abord, moi, je n'ai absolument pas conscience de vivre dans une île. Parce que, vous savez, l'idée d'île, souvent, c'est l'exotisation d'une terre. Parce que New York est une île, je ne sais pas, Montréal est une île. Et on n'a pas du tout la même projection. L'idée d'île, c'est l'idée du soleil, de femmes au bord des plages ou de fruits. Non, moi, j'ai le sentiment de vivre pratiquement Haïti. D'ailleurs, je le dis dans le texte, c'est la moitié du Nil, 27 000 km², mais on en parle autant que d'un continent. Je pense que ce qui fait l'importance, c'est moins la mer que la pauvreté et l'histoire, parce que la pauvreté a une histoire. Elle n'est pas sui generis, elle a une histoire. Ce qui fait peut-être que cette île n'est, moi, ce lieu que j'habite n'est ni un cauchemar, ni une carte postale, mais simplement un endroit où des gens essaient de vivre. C'est un endroit qui chante dans mon sang aussi bien la joie que la colère, évidemment. Et c'est un endroit où la condition humaine se décline d'une certaine façon.
Mais ça, c'est vrai pour la plupart des territoires dans le monde, mais cette géographie insulaire qui a été portée par la littérature, si vous dites carte postale, les fruits, les plats.
Ou
les
le îles
du Nord. Pour Haïti, il y a les îles du Nord aussi, les îles hyperboréennes. Mais cette notion de géographie, vous ne la sentez pas quand vous écrivez
Je sens beaucoup plus le poids de l'histoire. Et les déplacements de population aujourd'hui, parce que Haïti a connu les déplacements de population depuis le début du XXe siècle, c'est le poids de l'histoire qui fait que les gens veulent laisser leur territoire pour aller ailleurs. D'ailleurs, ils vont même à côté, en République dominicaine. Donc c'est le poids de l'histoire qui va expliquer le déplacement, non seulement de population en quête d'un mieux-être, mais quand j'ai écrit le livre entre l'écrivain haïtien entre l'ancrage et la fuite, on se rend compte depuis le début du XIXe siècle que ce pays était difficile pour justement ceux qui ont. Et qu'il y avait une difficulté d'ancrage parce qu'il fallait à chaque fois définir sa présence au monde. Et souvent, les écrivains choisissaient de partir ailleurs. Donc cette difficulté de l'ancrage, parce que quand on est un écrivain, on écrit en langue française, on est quand même, de couche privilégiée de la population. La coupure n'est pas simplement le fait qu'on soit un écrivain. Il y a la langue, on écrit dans une autre langue, on est dans une autre situation sociale. On écrit dans un pays de grande oralité. Et je pense que la différence sociale, souvent, c'est presque une différence culturelle. Nous sommes plus occidentalisés alors qu'il y a une population. Donc il y a un malaise. Mais ce qui est intéressant, c'est que le malaise est fécond. Je crois que quand il n'y a pas malaise, il n'y a pas création. Et je crois que c'est ce grand malaise que nous traînons depuis toujours qui explique cette espèce de fécondité de la littérature haïtienne.
Alors je vous ai réunis quand même parce que ce thème de l'insularité, même si on a bien compris, Yannick Lahin, ce que vous le mettez un petit peu à distance, on a quand même l'impression, alors ne parlons pas d'île, mais parlons de cette impression qu'on a quand on vous lit de personnages qui sont cernés par peut-être ce poids de l'histoire ou par une géographie. Il y a la mer aussi, mais ce poids de l'histoire peut-être. Je vous cite Yannick Lahin, quand vous parlez de Port-au-Prince, la ville est un chaudron et il faut viser l'écume pour ne pas aller racler le fond. L'un de vos personnages, Brune, rêve de contrées lointaines enneigées, donc l'antithèse d'Haïti, antichambre du paradis, là où le feu n'a pas encore brûlé, même si elle le soupçonne de couver partout. Et quand je vous lis Milena Agus, j'ai ce personnage d'Esther qui à chaque fois, et la phrase revient dans le livre aussi à chaque fois, comment peut-on vivre dans un endroit pareil ? Elle parle de la Sardaigne, elle parle de son village. Et en vous lisant, même si c'est évidemment une grande beauté, un grand ensoleillement, une exultation aussi, une exaltation des corps, on sent quand même l'idée, j'ai l'impression, que l'île est un piège pour ces personnages. Est-ce que vous souscrivez à cette idée-là pour vos personnages, Milena Agus?
Allora, la Sardegna ha avuto una storia molto particolare a proposito di questo.
La Sardegna a connu une histoire très particulière par rapport à ce point.
C'est stata una grande corsa ad andar via negli anni 60.
Effectivement, dans les années 60, beaucoup de Sardes ont voulu quitter l'île.
Si sognavano luoghi diversi,
parce qu'on rêvait d'autre chose, parce qu'on voulait fuir
dalla realtà sarda.
À cette réalité sarde.
Il problema è che noi sardi abbiamo, secondo me, tutti una particolarità.
Le problème, c'est que les Sardes, à mon avis, ont une particularité.
Ci prende quello che prende
que,
gli africani. Cioè,
c'est-à-dire que nous sommes pris par le mal que connaissent, par exemple, les
per
Africains.
Cui,
on a le mal de la Sardaigne.
Io che ho vissuto,
et avec ce mal de la Sardaigne, moi
Milano,
par exemple, j'ai passé
nord,
mes jeunes années donc à Gênes, à Milan, dans le nord du
comme,
pays.
Comme vos personnages, comme Raffaele qui part à Gênes,
un
et comme Esther qui va à Milan.
Un peu comme Felicita, certo.
Comme Felicita aussi, oui.
Mi rendo conto che, per esempio, donc, tutti quelli che dalla Sardegna erano
esempio,
fuggiti,
tous ceux qui ont quitté, qui ont fui la Sardaigne à juste titre, probablement parce qu'ils en avaient besoin à ce moment-là, mais ces gens-là, tôt ou tard, ils ont ressenti un besoin impératif de construire un petit quelque chose ou d'avoir un petit pied-à-terre, en tout cas en Sardaigne, pour pouvoir revenir. Les gens qui sont d'ailleurs partout en Europe et même à New York, il y a des petits cercles de Sardes qui se retrouvent, des gens qui partagent cette souffrance, cette nostalgie de la Sardaigne et qui se retrouvent.
Noi, dico noi, ma io non appartengo a questo noi, nel senso
che io disais nous, en fait, je ne fais pas vraiment partie de ce nous, puisque je veux être là où je suis, et jamais je ne partirai.
Però ho notato che c'è la febbre.
Mais j'ai remarqué effectivement qu'il y a cette fièvre du départ que l'on observe. Après quoi, il y a la nostalgie et elle est douloureuse et tous les Sardes veulent rentrer à la maison.
Nostalgie qui, étymologiquement, on le rappelle, signifie la douleur du retour, hein, le sentiment qui est un mot qui a été inventé d'ailleurs bien plus tard. Je vais vous demander, et je me tourne vers Yannick Lins, le motif de l'île. On disait, en littérature, a nourri des siècles de littérature, depuis les îles de l'Odyssée, les îles des grandes épopées antiques, l'île de Calypso, l'île des Lotophages, jusqu'aux multiples variations autour de l'île de Robinson. L'île a une dimension magique, fantasmatique. C'est un territoire qui est quand même coupé du monde, même si Haïti, c'est vrai, est une demi-île, en fait, puisqu'il y a Saint-Domingue de l'autre côté. Il y a aussi une dimension politique de l'île. Quand on pense à Thomas More, l'auteur de L'Utopie, qui était ce terrain d'expérimentation pour une fiction politique, un laboratoire politique. Utopie qui veut dire le lieu qui n'existe pas. L'île est chargée vraiment symboliquement, politiquement, littérairement. Quel est votre rapport à l'une, peut-être Yannick Lins d'abord, et à l'autre, à cette littérature de l'île, à ce motif littéraire de l'île?
Je crois que ce qu'on oublie, c'est que la littérature haïtienne commence au XIXe siècle. Et qu'on a tout ce patrimoine sur lequel nous, écrivains d'aujourd'hui, nous sommes adossés à ce patrimoine ou debout sur ce patrimoine. Et que de par la situation particulière historique d'Haïti, il y a toujours eu cette... Moi, je dis souvent, je l'ai dit dans Faille, après le tremblement de terre, Haïti, c'est la matrice des relations nord-sud. Tout ce que les relations nord-sud vont connaître après, quand vont continuer les conquêtes, l'impérialisme, Haïti l'a connu. La dette, l'isolement de 1804 à 1820. Donc, au départ, les conditions même de naissance font que les réflexions que vont porter Haïti, ce sont des réflexions qui vont d'emblée concerner le monde entier.
Comme un laboratoire, au fond, finalement.
C'est un laboratoire. Ouais. Et jusqu'au moment où je vous parle, il continue d'être ce laboratoire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la Révolution américaine 1776 qui promet, il y a une belle avancée. La Révolution française, belle avancée. L'esclavage continue. Les droits des gens ne sont pas, des Noirs ne sont pas respectés aux États-Unis. La France fait 1789, mais les colonies existent.
Mais là, vous parlez d'Haïti.
Oui, et on pousse les questions, et ce sont des questions encore contemporaines, d'égalité.
Mais est-ce qu'en tant qu'haïtienne, quand vous écrivez, vous transportez aussi cette image au-delà d'Haïti, de l'île? Tous les textes que je mentionne, j'aurais pu mentionner aussi Paul et Virginie chez Bernardin de Saint-Pierre, cet exotisme aussi dont on parle, c'est cette idée d'un territoire coupé du monde qui permet justement d'être un laboratoire, vous avez prononcé le mot, mais au-delà d'Haïti, ou est-ce que finalement la réalité haïtienne, spécifiquement haïtienne, vous oblige?
Moi, j'ai l'impression que quand je parle d'Haïti, je parle du monde. Parce que ce dont je parle, c'est aujourd'hui la majorité du monde. Parce que ça pourrait être le Pakistan, l'Irak, ça pourrait être l'Amérique du Sud. Ce dont je parle, c'est vraiment la majorité du monde. J'ai la sensation, en parlant d'Haïti, que je ne parle pas de quelque chose de lointain, mais que de quelque chose dont le monde doit avoir conscience.
Une métaphore du monde, finalement, un petit monde.
Vous avez dit un mot que j'écris souvent, une sorte de métaphore. C'est intéressant, dans le livre de Milena Angus, à un moment donné, elle parle de sa... Je crois que c'est une grand-mère qui habite une île, mais qui n'est jamais allée à la mer. Vous avez des tas de gens en Haïti qui ne sont jamais allés à la mer. Et on dit souvent que c'est parce que ce sont des paysans que l'on a transportés sur cette terre, donc il n'y a pas ce rapport, je pourrais dire... Il y a des pêcheurs, évidemment, il ne faut pas exagérer, mais il n'y a pas ce rapport, justement... d'exotisation.
Viscérale à l'eau.
Et quand elle dit que c'est le tourisme qui va apporter une autre vision du monde, je pense que les gens ne vivent pas cette mer de manière touristique. On a l'impression que la terre est même plus importante. Et la mer, c'est à la fois un rejet et une mémoire aussi. Parce que, par exemple, quand les gens meurent, on sait que c'est par là qu'on peut retourner en Afrique. Le paradis, c'est la Guinée. Donc on va sous l'eau et on retourne en Afrique. Il y a une mémoire qui, jusqu'à présent, dans la religion populaire vaudou, on refait le chemin inverse pour aller de là où on est parti. Donc c'est vrai qu'on vit cette insularité de manière très différente. Mais ça demeure une île, évidemment.
Et vous, Milena Agus, est-ce que quand vous écrivez toujours d'ailleurs à Cagliari, en fait, toujours sur votre petite table
Io a proposito degli scrittori sardi, posso parlare di una storia diversa, perché sicuramente tutti sanno
che
in Europa dell'esistenza della famosa, non lo so pronunciare bene in francese, la chiamano la Nouvelle Vague, sarda.
Sarda.
A un certo punto moltissimi scrittori sardi,
il y a eu un moment où tous les écrivains sardes, et d'ailleurs tous ensemble, ont connu un succès retentissant.
Si, credo que...
Lesquels
quelli più di successo,
ceux qui ont vraiment beaucoup de succès, la liste serait longue.
Michela Murgia,
ah oui,
Marcello Foïs, Salvatore Nifoi, Flavio Soriga, Antonio Todde, non scusate, Giorgio. Ça fait insomma, è un lunghissimo elenco.
Voilà, la démonstration
est très longue.
Voilà.
Sì,
oui.
Sì.
Mais vous...
E credo che questa fortuna.
C'était une chance?
Questa fortuna sia proprio derivata dalla particolarità.
E je pense qu'elle est liée à la particularité, à cette insularité dont vous parliez.
Cioè, vous pensez que ça favorise la création, évidemment, qu'elle soit littéraire là pour votre cas, que cette notion de laboratoire dont on parlait, géographique, politique, est aussi en fait un laboratoire créatif à cause de l'insularité?
Si, secondo me. Il nostro punto di vista, cioè quello di Isolani,
notre point de vue d'insulaire,
ha un che di diverso rispetto ad altri punti di vista, cioè un punto
différent.
Di vista che ha tutte
d'autres
qualità,
regards et d'autres points de vue, c'est-à-dire que ce point de vue qu'il est nôtre, il a à la fois toutes les qualités, toutes les particularités de ce qui est loin.
Lontano. Il lontano come
ce qui
nostalgia,
est loin, ce qui est loin qui renvoie la nostalgie,
le continent,
ce qui est loin comme aspiration, le continent.
Voilà. Se voi pensate che fino a pochissimo tempo fa,
imaginez-vous, il y a très peu de temps encore, donc, à l'époque de ma grand-mère, on appelait le continent la terre ferme, comme si nous étions en train de flotter.
À Venise aussi, pareil. La terre ferme qui est de l'autre côté de Venise.
Oui, même chose à Venise, la terre ferme.
Et quindi credo che tutto questo fascino proprio nasca nel bene e nel male dalla lontananza.
Cet attrait, ce charme particulier, avec ses effets positifs et négatifs, il est lié à cette distance, au fait d'être loin.
La lontananza.
Vous parliez, Yannick Lahens, de la Guinée, qui était le paradis, justement, pour l'Haïti. Finalement, on a l'impression qu'au contraire de Milena Agus, au contraire des Sardes, qui voient justement le continent comme la chose qui est vraiment de l'autre côté, mais éloignée, que Haïti, vous le voyez plus comme connecté, en fait. Il n'y a pas cette distance-là, en fait.
Vous parliez tout à l'heure de créativité, c'est ce qui expliquait la créativité. Si je parle de la créativité aujourd'hui, de la jeune génération, on la voit, je la montre un peu dans le texte.
Avec Ézéchiel, notamment,
voilà, cette quête
le
de
poète.
Beauté qui sauve des maléfices de la ville. Je crois que c'est
enfin, est-ce qu'elle
plus...
les en sauve, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je crois que c'est cette quête d'oxygène. Je crois que c'est presque l'oxygène qui permet de tenir dans des situations difficiles. Et moi-même, je suis même épuisée par ces jeunes qui tout le temps sollicitent les plus âgés que nous sommes.
Oh.
Parce que il y a toujours la création de beauté par le théâtre, par la poésie, par la musique, ouais. Toutes sortes de musiques. La musique classique maintenant qui revient aussi, même en Haïti.
La peinture.
La peinture, la sculpture.
Ouais, le plasticien.
Il y a des tas de petites bibliothèques que les gens mettent dans des quartiers absolument improbables, dans des villes improbables. Je crois que cette ferveur, cette... Port-au-Prince, c'est déjà le chaudron, c'est très dur, c'est accéléré. C'est la preuve que les jeunes disent « on veut vivre ». Et ceux qui restent ont moins le sentiment d'être isolés parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'ils arrivent à partir dans des stages à l'étranger, donc à avoir un contact avec d'autres jeunes.
Mais donc l'éloignement, l'insularité finalement n'est pas la cause finalement majeure de cette stimulation créative.
Je pense que je reviens... La cause majeure, c'est définitivement l'histoire et la pauvreté qui ne permet pas justement de pouvoir rester. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent. Il faut pas croire. Je parlais même de Lampedusa terrestre. On sait mieux ici les gens qui viennent d'Afrique, d'Irak, de Syrie et qui arrivent. Mais on sait moins qu'il y a des tas d'Haïtiens qui aujourd'hui font la route à pied par la Guyane, passent par le Brésil, remontent jusqu'aux côtes américaines ou maintenant vont au Chili. On n'en parle pas. Oui, il y a cet exil et ce besoin de fuite parce qu'il y a des problèmes matériels. Mais je crois aussi d'un autre côté, il y a tous ceux qui veulent rester, comme moi, et même de la jeune génération qui veulent rester parce que c'est le lieu où on peut encore créer de la beauté, malgré les problèmes.
Grâce au poids de l'histoire, au lestage, au lest de l'histoire. On va continuer à explorer avec vous, Milena Agus, et vous, Yannick Lain, ce motif de l'insularité. Plonger davantage aussi dans vos livres. On commence avec vous, Milena Agus, mais on écoute d'abord votre choix musical. Alors, vous avez choisi Fort Oscar, et c'est un morceau joué par votre fils, si j'ai bien compris, Alberto Pibiri, c'est ça ? C'est votre fils ? Qui est pianiste de jazz à New York, ouais, et qui vient d'enregistrer son premier album.
Le deuxième.
Pardon, autant pour moi. Deuxième album, on écoute tout de suite. Fort Oscar, c'est un morceau joué par votre fils Milena Agus, qui est pianiste de jazz à New York, qui vient d'enregistrer donc son second album, son deuxième album. Nous sommes en direct, vous pouvez l'entendre, voilà, il y a un petit peu d'écho, en direct de la fête du livre de Bron, à laquelle s'associe France Culture, et nous passons cette heure avec deux écrivains, deux femmes qui écrivent depuis leur île, Yannick Lins depuis Haïti, et Milena Agus depuis la Sardaigne. Alors, Milena Agus, je ne vais pas vous demander pourquoi ce choix musical, puisque c'est le... C'est par amour que vous choisissez ce choix musical, évidemment. Vous savez, dans cette émission, chaque écrivain choisit une musique qui lui tient à cœur.
Diciamo che anche se il libro Terre promesse non è un libro autobiographico.
Terre promise n'est pas un ouvrage totalement autobiographique. Bien évidemment, comme toujours lorsqu'on écrit un livre, on crée des personnages qui s'inspirent de personnes. Et puis ensuite, le personnage va vivre sa vie. Donc, le Gregorio de Terre promise n'est pas Alberto.
Non.
Alberto Pibiri, mais bien sûr, il s'inspire de mon fils, qui, comme bien d'autres, était allé à la recherche de sa terre promise. Alors évidemment, quand on est musicien de jazz, quelle est la terre promise sinon New York, évidemment. Après quoi, comme tous les personnages du livre, il n'échappe pas à la confrontation, à la réalité, l'écart qu'il peut y avoir entre la réalité avec laquelle il faut bien sûr faire et vivre.
Et puis
cette idée qu'on avait avant.
Che poi credo sia quello che succede.
Et je dirais qu'en fait, c'est l'histoire de tous les êtres humains, y compris de ceux qui ne partent jamais, qui vont rester au même endroit toute leur vie. On est avec une certaine idée du monde, monde parfait. L'enfant a cette idée d'un monde parfait, puis bien sûr, chemin faisant, on est bien obligé de se confronter à la réalité du monde.
Oui, effectivement, le jazz est très présent dans Terre promise, votre nouveau roman qui paraît chez Liana Levi, je le disais, traduit de l'italien par Marianne Faurobert, Milena Agus, puisque dès le départ, en fait, on fait la connaissance avec l'un des héros, Raffaele, qui revient de la guerre et qui a rencontré un joueur de jazz lui-même. Ensuite, Raffaele retrouve celle dont il était amoureux, Esther, donc on est en Sardaigne. Et le couple va, c'est ce que raconte aussi ce livre, va aller sur le continent, d'abord dans Milan, la ville grise, avant de revenir en Sardaigne, où ils vont avoir une Felicita, cette petite fille, qui elle-même va avoir ce Gregorio que vous mentionniez, et qui lui aussi cherche donc sa terre promise. Il y a quelque chose, j'ai trouvé, de très très ironique en fait dans ce livre, et je voudrais vous poser cette question-là, puisqu'il est question à chaque fois de personnages qui, tout en étant liés, n'arrivent jamais à s'accorder sur la notion de terre promise. C'est-à-dire que la terre promise de l'un n'est jamais la terre promise de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce titre que vous donnez à votre roman, Terre promise, l'idée de jouer avec l'idée que justement la vie ne tient pas toujours ses promesses pour les insulaires? Au fond, il n'y a aucune promesse tenue, sauf peut-être pour Gregorio.
Non. Si, è così.
C'est exactement ça.
Allora, i personaggi li ho costruiti con questa idea. Allora, ci sono
les personnages,
ont cette
idée, effectivement. Donc, nous avons tout d'abord les personnages idéaux.
Che sanno fare, arrivent
à se confronter à la réalité, s'en accommoder. Il y aura Felicita, Raffaele,
che se n'è andato dalla Sardegna
qui a quitté la Sardaigne à l'époque, non pas pour être agriculteur, pour faire autre chose et échapper à son destin. Et ensuite, il va revenir ensuite en Sardaigne et il va faire finalement tout ce qu'il avait voulu éviter de faire. Mais pour autant, à sa manière, il va trouver la paix intérieure, le bien-être, et il réussit à vivre. Ça, ce sont les personnages idéaux, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont arriver à vivre en dépit de la déception, en dépit du fait que les terres promises n'ont pas été à la hauteur ou que leurs rêves ne sont pas devenus réalité.
Donc il y a une dimension.
Intacti, mentre i personaggi,
ce sont des gens qui sont restés intacts en dépit de tout, alors que les autres personnages, ceux qui nous rapprochent peut-être davantage de l'homme commun,
si, non
ces personnages-là, ils ont du mal. Ils ont du mal, ils n'arrivent pas à franchir cette étape-là.
Il y a donc une dimension, on pourrait dire, morale, finalement, de l'ordre de la fable aussi, dans ces terres promises au pluriel.
Sì, in questo libro c'è
e la possiamo
vedere.
E c'è qualcosa che l'on voit par exemple
nell'epigrafe tratta dal libro di
Amosos
in exergue de Giuda, oui.
La storia perché molto brevemente.
Brièvement, allora c'è un gruppo di
crociati che nel Medioevo
une troupe de croisés qui au Moyen-Âge partent à la conquête de Jérusalem parce que dans leur esprit Jérusalem c'est la ville parfaite,
la città felice.
C'est la ville du bonheur et la ville heureuse, mais chemin faisant alors qu'ils se rendent vers Jérusalem ils vont rencontrer toutes sortes de difficultés, de malveillance. Ils seront tués, attaqués, ils vont devoir traverser la boue, la neige, ils vont mourir de maladie. Et au bout d'un moment, ils arrivent dans un endroit qui est beau, qui est plutôt agréable, et dans ce lieu, les gens sont gentils.
E che non è affatto Gerusalemme.
Et ce lieu n'est évidemment absolument pas Jérusalem. Et ces gens qui ont survécu, ces survivants.
Si, e questi crociati, a un certo punto,
les croisés rescapés, donc,
si guardano in faccia
se regardent
et puis
se disent, bon, allez, hein. On en reste là, on arrête là.
Certes,
ce n'est pas Jérusalem, mais nous pouvons l'appeler Jérusalem. Le petit village qui est juste à côté, on l'appellera Bethléem, et puis on s'arrête là.
C'est presque le travail d'un.
C'est la seule manière pour eux de ne pas mourir. Mais sinon, ils allaient tous périr.
De nommer, voilà, nommer. On retrouve l'utopie, le laboratoire dont on parlait. Je vous demandais, en fait, vous en avez d'ailleurs parlé vous-même, par rapport à Gregorio, qu'on vient d'entendre jouer, mais non, parce que ce n'est pas biographique. Mais vous avez déclaré à propos de ce livre, Milena Agus, que vous vouliez, au seuil de la vieillesse, c'est vous qui le dites, vous poser des questions et leur trouver des réponses sages, des questions sur comment l'on doit vivre et ce que l'on doit rechercher dans la vie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, puis je voudrais l'avis d'Yannick Lahens aussi, en quoi un roman, en quoi l'écriture, en quoi la littérature serait fait pour trouver des réponses sur comment l'on doit vivre ?
Una delle ragioni per cui io scrivo e ho bisogno di scrivere, perché
j'ai besoin d'écrire, parce que si je n'écris pas, je deviens folle. C'est précisément parce que je me cherche des réponses, je veux trouver des réponses. C'est donc dans les autres livres que j'ai écrit, j'ai donné des réponses, je me suis donné des réponses à des questions particulières, du type, est-ce que l'amour érotique est possible lorsqu'on a déjà un certain âge ?
Il dolore fisico,
la douleur physique,
è vero che è minore del dolore morale.
Est-ce que c'est vrai qu'elle est moins forte que la douleur morale?
I sogni della nonna di Mal di Pietre,
les rêves de la grand-mère de Mal de Pierre ne portent pas simplement malheur et difficulté, ce sont des questions particulières donc, que je me posais à chaque fois.
Invece adesso, che sto invecchiando,
et maintenant que je suis au seuil de la vieillesse, j'avais besoin de me poser une question peut-être plus générale.
Possibile per noi umani.
Et la question que je me posais,
felici.
C'était la suivante. Pour nous, humains,
oppure,
est-il possible d'être heureux?
Come possiamo
ou alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir?
Parlo dei, anche dei fortunati, cioè, non parlo dei,
je parle de ceux qui ont de la chance.
Poveri,
je ne parle même pas de ceux qui ont vraiment des grandes difficultés.
Tutti,
c'est un problème
ricchi, poveri,
qui nous concerne tous, riches, pauvres.
Si. Vous êtes d'accord avec ça, Yannick Lahens? C'est-à-dire qu'un roman serait là, finalement, pour répondre à certaines questions que l'on se pose d'ordre presque existentiel, même moral, au fond. C'est presque qu'est-ce qu'une vie réussie, quoi.
pour moi, l'espace du roman n'est pas l'espace des réponses, mais plutôt l'espace des interrogations. Et moi, je ne pense pas que le roman soit là pour donner des réponses. Je pense que je suis, moi, traversée par un certain nombre d'interrogations, d'obsessions, que je propose au lecteur ou à la lectrice, et à cette lecteur ou à ce lecteur, pardon, ou cette lectrice, de continuer l'interrogation. Parce que je ne pense pas qu'on arrive véritablement à des réponses définitives. Ce sont des réponses qui amènent d'autres questions, de nouvelles questions. C'est toujours très ouvert. Et dans cet univers dans lequel je vis, dans cette ville de Port-au-Prince, je crois qu'on est souvent face à des sensations, des sentiments, des interrogations toujours extrêmes. Et peut-être que le titre, qui est une sorte d'oxymore, douce déroute, peut-être que nous aménageons la déroute en douceur pour pouvoir tenir.
C'est bien dit.
Voilà.
C'est bien
et peut-être aussi que les personnages eux-mêmes confrontés, y en a qui sont plus ou moins dans la déroute.
Donc des questions. Vous dites en fait, voilà, c'est plutôt pour poser des questions, parce que je reviens à ce que disait Milena Agus. On a l'impression, d'ailleurs un peu comme dans Mal de Pierre. Dans Mal de Pierre, l'héroïne était un peu dérangée, vous l'appeliez comme ça. Elle était un petit peu en marge de sa propre vie. Il y avait le même sentiment de décalage dans Battement d'ailes, d'ailleurs aussi, puisque le personnage défendait vraiment avec opiniâtreté le carré de terre qu'elle possédait vraiment devant la mer. Et en fait, on a l'impression, là je cite, je vais citer Terre Promise et le personnage de Felicita. Seule Felicita comprenait toute la poésie qu'il trouvait à cela. Elle seule percevait la beauté du lilas délicat et du violet intense des fleurs de cardon et d'artichaut, des boules blanches au bout des tiges des oignons, des pétales jaunes d'or des fleurs de tomates. On a l'impression que Felicita est de la même famille en fait que vos autres héroïnes et qu'elle, c'est pas des questions qu'elle pose, mais c'est qu'elle donne vraiment des réponses, à savoir regarder vraiment ce qui est important, à savoir que l'écriture rachète le réel. Ça, c'est une de vos expressions. C'est plutôt, vous, des réponses que le roman donne, contrairement aux questions que posait Yannick Lahens.
Allora, quando Yannick parlava,
lorsque Yannick pensavo parlait tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, et je me disais, en fait,
mai a dare una
moi
risposta.
Non plus, je n'ai jamais vraiment réussi à donner de réponse.
Anche, e pensavo che Yannick ha ragione, non
et je me disais, elle a raison, Yannick.
Anche le mie storie non danno una risposta definitiva.
C'est vrai que mes récits à moi non plus ne donnent pas de réponse définitive.
Sì. E quindi succede quello che diceva Yannick.
Se produit alors exactement ce que décrivait Yannick.
Però forse mentre avec, perché io l'ho
peut-être
letto
quelques nuances, j'ai lu son
livre,
j'ai beaucoup aimé ce livre, le seul qui est disponible en italien, La couleur de l'eau, qui était le seul traduit en italien, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai lu deux fois d'ailleurs.
En fait, vous connaissez Haïti grâce à. Vous connaissez Haïti grâce au livre de Yannick Lahens, en fait.
C'est votre.
Oui, uniquement grâce à ce livre. Non, j'ai pas lu des romans. J'ai lu des essais plutôt sur Haïti.
Ho letto dei saggi di Daimon, ho letto dei libri di storia.
Des livres d'histoire.
Quindi è vero, neanche io poi ho saputo dare una risposta.
Il est vrai que moi non plus, je n'ai pas été en mesure de donner une réponse. Ce que j'ai fait, en revanche, j'ai essayé de donner beaucoup de réponses.
Ecco, fra cui per esempio.
Un certain nombre de réponses, par exemple, notamment. Ce que vous lisiez, le passage que vous lisiez il y a quelques instants, ça c'est une forme de réponse.
Voilà, une forme de réponse.
Le pauvre, il ne voulait pas être paysan. Et voilà, et il s'y retrouve, et à ce moment-là, il adore, il tombe amoureux des fleurs de cardo. C'est une des réponses possibles, ça.
Alors on va quitter la Sardaigne pour aller dans cette. Alors, cette. Ce chaudron, c'est l'expression, ce chaudron de Port-au-Prince avec vous, Yannick Lahens. 12 déroutes paraît aux éditions Sabine Vespizer. On est dans la nuit haïtienne, dans la journée aussi, mais beaucoup dans la nuit. J'ai beaucoup aimé ces passages où les corps, justement, se remettent un peu à célébrer la vie qui est si difficile aussi, où le mensonge aussi surgit dans cette nuit de Port-au-Prince. Haïti, on sent vraiment son énergie, cette douleur, ce poids de l'histoire aussi dont vous nous parliez à travers vos livres, cette sorte de vérité, alors de forme de question, forme de réponse. qui nous est transmise par un cercle de personnages liés les uns aux autres par des liens familiaux ou amicaux, on le disait. Beaucoup de personnages, des Français, des Occidentaux qui arrivent à Port-au-Prince, des Haïtiens, et notamment Ézéchiel, le poète qui s'alimente au rhum aussi et qui célèbre la poésie. Un juge aussi qui écrit magnifiquement à l'orée du livre à son épouse en lui disant qu'il va mourir et qu'il a besoin de lui dire quelques mots avant de mourir. Et puis ce titre, « Douce déroute », vous en avez parlé un peu, qui suggère l'idée d'un destin perdu, d'une défaite, d'un mauvais chemin pris, qui sonne un peu d'ailleurs comme les terres promises qui, parce qu'elles sont au pluriel, suggèrent que on n'y arrive vraiment jamais, au fond. S'il y a trop de terres promises, c'est qu'on ne les trouvera jamais. « Douce déroute » quand même, c'est la déroute, normalement, c'est tragique, c'est plombé.
Eh ben, d'où le choix de mettre « douce » avant pour montrer la complexité et peut-être les stratégies que chacun développe pour pouvoir tenir, parce que tout le monde a envie de tenir. Et ce qui est intéressant, c'est que les stratégies ne seront pas les mêmes pour tout le monde. La stratégie de Cyprien, c'est d'avoir une voiture, de faire des compromissions, une belle maison. Et les jeunes poètes, créateurs, musiciens choisiront la beauté comme ce qui peut être la plus belle rédemption dans une ville telle que Port-au-Prince. Pierre choisira de faire de ses repas du samedi des parenthèses enchantées. Ézéchiel découvrira l'amour, le désir pour Nerline, lui qui ne voulait pas justement se laisser amadouer par l'émotion. Et c'est là que nous approchons peut-être de cette chose. En fait, dans toutes les littératures, depuis que la littérature existe, il y a toujours ce choix entre le bien, le mal. Ce qui est, et comme on parle ici de justice, de ce qui est vertical, une direction, et ce qui ne l'est pas. Et même dans les situations les plus noires, il y a toujours cette faille, cette fissure qui laisse passer la lumière. Et c'est un peu ce que je voulais montrer.
Alors vous parliez de beauté, Yannick Lahens. On va écouter un peu de beauté, puisque dans ce livre est présent un des leaders de Schubert. Et c'est le choix musical que vous avez fait pour cette émission, donc celui que vous citez dans « Douce déroute », Anne Sylvia,
donc opus 106. Texte de Shakespeare, voilà, sur une femme.
Exactement, qui est interprété par Bernarda Fink, et au piano, Gerold Huber. On écoute. Anne Sylvia, c'est un lead de Schubert que Yannick Lahens vous citez dans « Douce déroute ». Ici, il est interprété par Bernarda Fink et au piano par Gerold Huber. Je vous cite « Avec les leaders de Schubert, pas besoin de mots pour s'éclairer, la lumière est dans le chant lui-même, Yannick Lahens. »
Oui, et c'est un morceau qui arrive au moment où le personnage de Francis et Brune vont tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà.
Alors, ce livre, Douce déroute, est formellement se déploie dans une forme très particulière de narration, alors à travers de multiples personnages, plusieurs points de vue. On passe sans arrêt de la première à la troisième personne, par exemple. Est-ce que c'était finalement la forme qui s'imposait le mieux pour dire le bouillonnement absolument chaotique de cette île, voilà, une mosaïque de personnages
absolument,
et de voix.
Absolument, ouais. Absolument. Vous avez très bien décrit, parce que c'était une manière de montrer l'énergie fabuleuse de cette ville et en même temps cette sensation qu'il faut se laisser entraîner, donc la fusion, et en même temps quelquefois bon la distance pour pouvoir quand même s'en remettre un peu, et puis tout de suite retourner dans cette fusion. Donc ce monologue, être dans la tête des personnages. Et pour moi, ça rendait certainement l'idée de temps, de vitesse, d'énergie que suggère cette ville. Voilà.
Alors, énergie, certes. Fusion, certes. Bouillonnement créatif, certes. Rugissement des corps, puisqu'il est question vraiment, vous décrivez d'ailleurs admirablement les scènes de sexe, en fait, de jouissance, qui viennent justement comme un contrepoint à la difficulté et à la violence hein, de cette île. Mais il y a quand même aussi, à côté de cette énergie, une grande noirceur. Je vous cite, Yannick Lins, vos descriptions de Port-au-Prince. « Noir, embrasé aux portes nord et sud, couvant ailleurs son feu, ville gueule ouverte, asphyxiée d'avoir avalé à chaque averse toute la rocaille, la boue et les détritus, ville abandonnée à son agonie, et puis... Mais à 20 ans, la mort a le visage d'un ange qui te frôle avec une telle douceur que tu veux la caresser, toi aussi. » On est forcément dans ce balancement-là, finalement, dès qu'on est dans cette île.
J'ai écrit ce passage parce que j'étais invitée à une édition de Nuit Blanche, et c'était au bas de la ville, le soir. Il n'y avait pas d'électricité. Et quand j'ai traversé la ville dans cette noirceur, c'est exactement le sentiment que j'ai eu, surtout que c'était après le tremblement de terre. Et tout de suite, quand je suis arrivée à la manifestation Nuit Blanche, c'était le bonheur total. Parce qu'il y avait de jeunes poètes, de jeunes musiciens qui jouaient. Et c'est vrai qu'on est balancé. Et que cette espèce de façon d'être happé par des choses contradictoires, je pense que ça maintient dans une certaine vie, dans une certaine manière d'être très alerte. Oui.
J'avais envie de vous demander, parce qu'il y a aussi des passages évidemment sur la corruption, sur le pouvoir politique. Est-ce que finalement, quand on écrit comme vous depuis une île, je ne sais pas si c'est la même chose en Sardaigne, Milena Agus, mais est-ce que ça implique être un écrivain haïtien finalement d'aller aussi dans une dimension politique à chaque fois, de ne pas pouvoir échapper à ça? Vous parliez du poids de l'histoire à l'orée de cette émission.
Ah non, moi je ne me considère pas du tout comme un écrivain engagé.
Parce que j'ai dit la dimension politique.
Oui, forcément. Oui. Parce que je crois que il y a un luxe de ceux qui peuvent peut-être, ou bien c'est un choix, de ne parler que de soi, moi je ne sais pas, de son divorce, de son... Bon, là c'est difficile, hein. On est pris à la gorge tout le temps par cette pression extérieure qui met en cause, même, qui peut mettre en cause même votre vie. Et causer votre mort, donc on est tout le temps sollicité par ça. Mais en même temps, je crois que la plupart des écrivains aussi posent des questions qui sont d'ordre intime. Par exemple, la mort, par exemple, elle traverse quand même le texte. L'appel peut-être même de ce que j'appellerais l'invisible, quand Pierre sent qu'il est âgé, qu'il va mourir, il dit cette lumière, c'est presque l'invisible qui le touche déjà. Donc ce sont des préoccupations très intimes et très personnelles sur la souffrance, la maladie, la mort. Oui, ça aussi c'est présent, c'est universel de toute façon.
L'état poétique est le seul promontoire connu d'où par n'importe quel temps du jour ou de la nuit l'on découvre à l'œil nu la côte nord de la tendresse. Voilà, c'est un passage de Douce Déroute. Yannick Lins, je voudrais vous poser la question à toutes les deux pour terminer cette émission, Milena Agus et Yannick Lins. On a l'impression, en fait, qu'à chaque fois, d'ailleurs, dans Terre Promise, quand ils sont à Milan, le style est beaucoup plus sec. Et puis, dès qu'on retrouve la Sardaigne, on retrouve une liquidité, une limpidité, une matérialité à la fois forte, mais plus douce, une douce déroute, peut-être. C'est la poésie, en fait, qui dont on a l'impression qu'elle sauve ces territoires insulaires que sont Haïti chez vous et la Sardaigne chez vous, Milena Agus.
Oui, il y a une poésie certainement de la vie, il y a une poésie des gens, il y a une poésie même dans l'histoire et même dans la création. Donc oui, c'est quelque chose qui sauve. Ça, c'est une phrase de René Dépès que j'ai trouvée tellement belle.
Grand écrivain
haïtien. Pour dire cet état de poésie. Parce que je crois aussi, c'est pas simplement quelque chose de sombre. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent précisément nous sauver. Et c'est la poésie, la musique, la création, certainement ces repas autour desquels les gens se rencontrent par amitié, l'échange, le désir, l'amour. Il y a quand même des éléments qui permettent que la vie puisse être, ça vaut la peine d'être vécu.
Voilà. Diriez-vous la même chose, Milena Agus, pour la Sardaigne?
Allora, mi viene in mente un verso del pastore errante dell'Asia di Leopardi.
Je pense et, au calendrier de Leopardi.
L'ho anche scritto, l'ho preso questo verso, perché
nel
notturno del pastore errante dell'Asia
ci sono tutte le domande, il y a toutes les questions qui sont posées par Leopardi,
et la risposta finale,
à un moment je me souviens que la réponse définitive, la dernière réponse va être la suivante.
È funesto dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il di Natale. E cioè, sarebbe meglio non essere mai nati.
Plutôt però poi n'être jamais né, sarebbe preferibile di non jamais être né. Ma il y a d'autres vers aussi dans ce même ouvrage de Leopardi. L'un notamment qui est peut-être celui qui a mon sens devrait représenter mes livres, c'est ce que j'aimerais en tout cas, et c'est ce que disait Yannick tout à l'heure, à savoir
a qual suo dolce amore rida la primavera, che
on sait très bien
che quello che diceva Yannick,
le printemps justement renvoie aussi à la joie, à la douceur. C'est vrai qu'il y a le printemps c'est une beauté, c'est poétique, c'est splendide, et j'aimerais bien que ça évoque tout cela mes livres.
Ride al suo dolce amore, comunque.
Et c'est sur ces paroles de douceur que nous terminons cette émission. Ça vous va bien, Yannick Lins aussi. Douce déroute, c'est chez Sabine Vespizer. Et Milena Agus, qui était en face de vous, Terre promise, c'est chez Liana Levy. Et c'est traduit de l'italien par Marianne Faurobert. Merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci à Hélène Joguet aussi de vous avoir interprété. On dit ça, vous avez été interprété par Hélène Joguet. Merci beaucoup. Le Temps des Écrivains était en direct, vous l'avez entendu, de la fête du livre de Bron. Le Temps des Écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Naïd Lancio, Anne-Laure Chanel à la réalisation. Chargée de production, Pascal Morel. À la technique, Julien Bourdet, Olivia Branger, Sébastien Huel. Nous remercions aussi toutes les équipes de la fête du livre de Bron. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. 7 heures avec Milena Agus et Yannick Lins. Merci à vous.